Vous écoutez RTL.
15h03, vous êtes sur RTL. Et tout de suite, vous retrouvez Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Bonjour Flavie.
Bonjour Céline Landreau. Céline, on est fait pour vous retrouver à 16h pour un prochain point sur l'actualité.
À tout à l'heure.
En direct sur RTL. À tout à l'heure. Landreau, Flamand, Bonnet, de la Tronchette, Polaxic, Touchard. Quelle est l'origine de nos noms de famille? Nom de nom. On se retrouve tout de suite sur RTL.
15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous après ce week-end maussade? Allez, en ce début d'émission, cadeau.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Aucun rapport, vous le savez, avec le thème de ce jour. Mais je me suis dit qu'avec un peu de chance, bah, cela vous aura mis en joie, justement. Et vous la chantonnerez jusqu'à la fin de la journée. Avoir une chanson sans cesse en tête, ça s'appelle avoir un ver d'oreille. Beyoncé et Lady Gaga seraient les artistes les plus entêtantes à l'heure actuelle. Alors j'espère que vous aimez profondément cette chanson de Charles Trenet. Sinon, sachez que des scientifiques américains préconisent la concentration sur un autre sujet pour lutter contre cette invasion musicale. Eh bien, ça tombe bien, car le programme de ce jour est tout simplement passionnant et je sais que vous l'attendez avec impatience depuis quelques semaines. Prends soin de ton nom, car il te restera plus longtemps qu'une grosse somme d'or, selon la Bible. Alors, quelle histoire se cache derrière les noms de famille? Quels sont les noms les plus courants, les plus atypiques ou les plus difficiles à porter? Quels noms propres ont donné naissance à des noms communs que nous utilisons dans le langage courant? On en parle aujourd'hui avec notre invitée. Ça tombe bien, elle est venue avec son ordinateur, elle est à votre disposition. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Elle saura y répondre. Marie-Odile Merniac, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez bien bossé, Marie-Odile, hein, parce que c'est vrai que ça nécessite quand même énormément d'enquêtes. Vous êtes auteure, historienne, généalogiste et vous avez signé cet ouvrage donc, qu'on retrouve chez Archives et Culture, l'Atlas des noms de famille. Et alors, il est beaucoup moins épais que l'ensemble de la documentation que vous avez sur votre ordinateur et que vous avez justement généré pendant toutes ces années. On a l'impression que c'est sans fin les noms de famille.
C'est sans fin déjà parce que la France détient le record du monde. On a près de 1 500 000 noms de famille.
Oui.
Donc c'est extraordinaire. C'est, entre autres parce qu'il y avait beaucoup de langues différentes, de patois, on pourrait dire, dans notre pays autrefois. Et puis beaucoup de surnoms, puisque dans notre pays, ça n'est pas le cas dans tous les pays du monde, dans notre pays, c'était des surnoms donnés pour distinguer de Louis, de Flavie, voilà, pour distinguer une personne d'une autre, à partir du Xe siècle, quand la population augmentait.
Comment on faisait avant alors? On s'appelait juste par notre prénom?
C'est tout. On
voilà,
avait
c'est
un prénom,
comme les numéros
rien
de téléphone,
d'autre.
On a rajouté à chaque fois des
voilà,
c'est ces chiffres pour pouvoir distinguer les numéros.
C'est ça.
Donc au début, on s'appelait par nos prénoms, et puis aux alentours du Xe siècle, il a fallu donc distinguer les gens entre eux.
Voilà, on a commencé à donner des surnoms, d'accord, et ces surnoms, vers le XIIe, XIIIe siècle, sont devenus héréditaires, c'est-à-dire au lieu d'avoir un surnom lié à soi uniquement, on transmettait ce surnom à ses enfants. Et ça s'est fait spontanément. Il n'y avait pas de loi qui est intervenue pour imposer quoi que ce soit.
Donc ce qui explique que certains noms de famille aujourd'hui puissent avoir des noms d'artisans, puissent avoir des noms de... par exemple, Louis de la Tronchette, qui fait partie de cette équipe, notre Louis national à nous. Louis de la Tronchette nous expliquait tout à l'heure qu'on lui racontait l'histoire de son nom de famille. Et c'était les petits orphelins, hein, c'est ça, dans le village de La Tronchette, et donc du coup, c'était il y a très 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 longtemps évidemment, et du coup, c'est vrai que ces petits-enfants qui galopaient et qui n'avaient pas de parents, qui galopaient dans le village de La Tronchette, on les avait appelés donc les enfants de La Tronchette. Est-ce d'accord, qu'effectivement c'est comme ça que se construisent les noms de famille, ou est-ce que certains ont été attribués d'une façon très officielle?
Non, 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 tout s'est fait spontanément, comme l'exemple que vous venez d'indiquer. C'était soit un surnom lié à un lieu, donc c'est le cas de la
Tronchette,
soit j'adore, un surnom lié à un prénom. Enfin, voilà, c'était le prénom du père,
par exemple,
qui servait. Vous avez Martin, c'est le premier nom,
d'accord,
en France, suivi de Bernard, qui est le deuxième nom. C'est évidemment des prénoms. Et en fait, contrairement à une idée fausse qui veut qu'on descende d'enfants trouvés quand on a un prénom comme nom de famille, non, c'était le prénom du père.
D'accord.
On s'appelle Jean Bernard parce que le papa à l'origine s'appelait Bernard tout court, c'est tout.
D'accord, ok. Et sur les surnoms, ça pouvait être des surnoms physiques, par exemple le borgne, grande oreille. Il y avait un côté un peu sioux d'ailleurs, je trouve.
Le grand, petit, etc. Et on trouve effectivement toutes les parties du corps dans nos noms de famille.
Ah bon ? Mais toutes les parties, parties ?
Toutes les parties du corps. Ça va de l'orteil au front.
Mais en passant par.
En passant par le ventre et autre chose et les fesses.
C'est bon. Il y a un monsieur, je sais pas, un monsieur sexe en France.
Il en existe pas beaucoup, mais il en existe.
D'accord.
Effectivement.
On va développer ce sujet avec vous, bien sûr, sur cette antenne. Et puis vous avez été nombreux à nous laisser des messages. On vous a confié déjà des noms qui nous sont arrivés par le biais des réseaux sociaux. Et puis vous allez en étudier également en direct. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. N'hésitez pas. Rendez-vous donc sur Facebook, sur Twitter. Parlez-vous de notre nom de famille. Parlez-nous de votre nom de famille. Ce sera plus simple. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
C'est fou parce qu'aujourd'hui en direct, on a la chance quand même de recevoir Marie-Odile Merniac, dont le métier est magnifique, passionnant, mais c'est vrai qu'en même temps, ça doit prendre un temps fou. Elle est historienne et généalogiste, et donc on écoute Renaud Séchant sur cette antenne. Et Séchant, ça vient d'où en fait, Marie-Odile ?
Deux hypothèses. Ou bien un ancien prénom d'origine germanique, parce qu'ils étaient très à la mode au Moyen-Âge, à l'époque de la formation des noms de famille, et dans ce cas, ça signifie victoire.
Oui.
Ou bien l'évocation d'un lieu d'origine un peu sec.
Très bien.
Une terre sèche.
Donc, ça veut dire que les lieux d'origine, on l'aura bien compris, peuvent définir un nom de famille.
Oui.
Les prénoms définissent un nom de famille, c'était les prénoms de nos ancêtres.
Voilà.
Alors, par exemple, nous avons dans notre équipe Céline Bonnet, et en fait, elle vient d'apprendre que Bonnet est un prénom.
Voilà, rien à voir avec le couvre-chef, c'est un prénom.
Très bien.
Qui veut dire courageux, qui est d'origine latine.
Il y avait également le surnom que donnaient toujours les voisins, comme les gamins dans une cour de récré.
Exactement.
D'accord, donc le petit, le gros, le borgne,
voilà,
les grandes oreilles et compagnie.
Voilà, pas toujours sympathique, puisque c'était les voisins qui les choisissaient.
Donc ça, et il y avait également les métiers.
Exactement.
Donc,
quatrième
dans un
catégorie.
Village, c'était quoi ?
Notamment,
c'était le cordonnier.
Principalement, le forgeron et le boulanger. Ça, il y en avait un dans chaque village. C'était des personnages majeurs. Mais on a aussi le cordonnier. Alors, le cordonnier est un cas un peu particulier. Cordonnier, autrefois, c'était un peu le cordonnier de luxe. Le cordonnier de base s'appelait le sueur. On le retrouve dans nos noms de famille. Et cordonnier, c'était celui qui faisait des chaussures avec du cuir de cordoue.
Très bien.
Donc pas n'importe quelle chaussure.
Et il y a combien de cordonniers pour Julien qui nous a envoyé un message ? Environ
5 000.
Oui, 5 000 cordonniers en France. Voilà. Donc Julien, maintenant vous savez que cordonnier, c'est pas n'importe quel cordonnier, en tout cas dans votre cas. C'est celui qui faisait des chaussures en cuir. Toujours dans les métiers, tiens, on a Julie qui nous envoie un message. Moi, c'est cabaret. Oui, comme un cabaret. Peut-être que mes ancêtres tenaient des lieux de fête, qui sait ?
Alors, lieu de fête, peut-être, mais en tout cas, lieu à boire. On n'y dansait pas, on y buvait.
On C'était buvait,
pour
Julie,
désaltérer. C'est
modération.
L'équivalent d'un café ou d'un bistrot d'aujourd'hui.
Très bien. Donc ça, c'est vraiment pour les endroits. Alors, ces noms-là, à partir de quand se sont-ils vraiment installés dans la vie des gens et dans la vie de la communauté ?
12e, 13e siècle. Donc 10e siècle, on commence à avoir les surnoms.
Oui.
Et puis 12e, 13e siècle, la population continue à augmenter et finalement, ça se fige. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir un nouveau surnom, on garde le surnom que portait déjà son père. Les médiévistes, pour savoir à quel moment cette transformation se fait, à quel moment les noms deviennent héréditaires, regardent précisément les noms de métiers. Quand on a un Jean Boulanger, qui est boulanger, puisque à cette époque-là, il n'y a pas d'état civil encore, on a simplement les registres fiscaux, parce
D'accord.
que là, le fisc était déjà là.
Il était déjà là, très en forme.
Et donc, dans les registres fiscaux, on a les noms, on a les métiers, on a les prénoms. Donc, quand un Jean Boulanger est boulanger,
c'est
a priori, c'est logique, c'est peut-être son surnom individuel. Quand un Jean Boulanger est pêcheur ou est maréchal ferrant, c'est clair, ça veut dire que les noms sont maintenant héréditaires.
Héréditaires. On a un message de Véro. Moi, c'est le Perse. Tiens, alors on fait un clin d'œil à Julien. Le Perse, qui signifie lépreux en anglais, pas de bol pour Julien, justement, et bouilli par le mariage. Véro bouilli. Le mélange des deux est cohérent. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Non. Le Perse, c'est très joli, ça n'a rien à voir avec la lèpre. C'est un très ancien prénom normand et qui désignait quelqu'un qui avait des yeux perses, c'est-à-dire violets.
C'est beau ça.
Donc très joli. Mm-hmm. Et puis bouilli, ça désigne un lieu marécageux.
D'accord.
Donc la bouille, on a beaucoup de hameaux qui portent ce nom-là en France. Donc l'indication d'un nom de lieu.
Très bien. Alors, Guillaume Couillot. Alors, attention, Guillaume, j'espère que vous nous écoutez. Pas toujours facile à porter, le nom Couillot, mais avec le temps, on s'y fait. Je sais que Couillot est d'origine de Loire-Atlantique, mais pour le reste, c'est un mystère. Guillaume, écoutez-nous bien. Ça vient d'où ?
Ah, Couillot, ça désignait un ancêtre vigoureux, on dirait...
Bien couillu.
Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. C'est la bonne phrase. Et en Loire-Atlantique, on trouve un hameau qui s'appelle la Couillaudet. Donc, il peut aller y faire un petit peu de tourisme. Et qui était le domaine des Couillots, justement.
D'accord, ok. On attend de vos nouvelles, évidemment, Guillaume. Sur les attributs, pardon, vous avez vraiment pensé que je suis obsédée, mais il y a effectivement des noms de famille sur les attributs, comme ça, beaucoup. Enfin, je sais pas, il y a les familles Fesses, les familles Saints, les familles...
Oui, oui, oui. Saint moins, c'était plutôt les attributs des garçons qui étaient
d'accord.
mis en avant.
D'accord, ouais. Ok, très bien. Bon, on le saura. Moi, je ne suis pas manchot, nous écrit Cédric. Le nom manchot, Cédric Debras. Ah oui, Cédric Debras, je ne suis pas manchot, nous écrit-il. Debras.
Rien à voir avec les bras, là, au contraire. C'est celui qui était originaire du lieu qui s'appelait Bras.
D'accord.
On en trouve plusieurs en France.
Pas beaucoup.
Là
hein.
encore, c'est un marécage. D'accord. Ça vient d'un mot gaulois qui désignait un marécage.
Alors, on a des messages. Lana qui nous écrit « Je déteste mon nom, je ne suis même pas sûre qu'il signifie quoi que ce soit. Est-ce que les noms signifient tous quelque chose ?»
Oui, mais dans certains cas, on n'arrive plus à en comprendre le sens. Donc, il y a des noms qui sont toujours à l'heure actuelle énigmatiques et qui le resteront peut-être toujours. Il faut chercher dans les dictionnaires des langues locales, oui. en occitan, en breton, dans des langues enfin, diverses en fonction
quoi.
Du lieu d'origine.
Mais voilà. Enfin bon, tous les noms de famille ont une signification particulière. Vous parliez justement de surnom. Fabrice, personnellement, j'aime beaucoup mon nom de famille, Lebeau. Il n'était pas facile de le porter à l'école, mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'aime jouer avec, surtout lorsqu'il s'agit de me présenter, comme c'est agréable d'entendre mon prénom suivi de mon nom. Alors, on va vous le dire directement sur RTL. Fabrice Lebeau, merci pour votre fidélité. Alors là, ça, c'était un surnom positif quand même.
Ah oui, tout à fait positif. Donc, mais ça voulait dire que tout le monde le reconnaissait comme quelqu'un de très beau. Son ancêtre était magnifique.
Voilà, merci beaucoup Fabrice pour votre message. C'est comme Fabrice et comme tous les autres, vous souhaitez avoir des informations sur votre nom de famille. C'est très simple. Vous composez le 3210, vous pourrez poser votre question sur cette antenne ou alors vous vous rendez sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors, des messages qui nous arrivent. On va essayer de faire l'étude alors en direct hein, de vos noms de famille, mais avec beaucoup d'indulgence envers notre invitée Marie-Odile Merniac, qui doit avoir la tête qui part dans tous les sens en fonction de tous les messages que nous recevons. On a Florent qui nous écoute très régulièrement. Florent qui vient de tweeter. Son nom de famille, c'est Guillarme. C'est un prénom, Guillarme ?
Guillaume, c'est un ancien prénom germanique, effectivement l'équivalent de Guillaume.
D'accord.
Et on en trouve environ 600, principalement dans le Lyonnais.
C'est pas énormément.
Non,
si
non.
Je m'en rends pas compte.
Alors, vous avez seulement un peu plus de 1% des noms qui ont plus de 500 porteurs.
Ah d'accord.
Mais à eux seuls, à eux tous, ils représentent les deux tiers de la population.
D'accord.
Donc vous avez 300 000 Martins. Et puis 300 000 personnes qui sont toutes seules à porter leur nom de famille, par exemple.
D'accord, ok, très bien. Alors donc, Guillaume, ça veut dire que c'est pas non
c'est
plus
déjà
un
très
nom...
porté.
C'est un nom assez porté. Quand j'étais libraire, merci Mélie Mélodie pour ce message, j'ai connu une jeune fille dont le patronyme était Bite Mignon. Pas facile à porter. Bite Mignon, vous avez déjà entendu parler de ça ?
Ah non, 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 effectivement, c'est un nom rare. Il faudrait faire une recherche pour vérifier...
On va la
signification
faire.
Du nom.
Voilà, si vous vous appelez Bite Mignon, s'il vous plaît, composez le 3210 et on vous parlera. C'est marrant parce qu'il y a des patronymes qui sont vraiment rigolos, qu'on a noté. Aime la fille, bon appétit, bouche fou, chaud d'oreille, mange matin, meurt de soif, ouvre l'œil, tête d'hiver, réveil chien, trompe sauce.
Alors, il y avait effectivement des surnoms vraiment cocasses au Moyen-Âge qui ont pu rester et survivre jusqu'à nous. Et puis, il y a eu aussi, au 19e siècle, beaucoup d'employés d'État civil qui ont donné des noms assez désagréables aux enfants trouvés. Ça s'est pratiqué à partir des années 1830-1840 et quasiment jusqu'aux années 1910-1920.
Donc, c'était par vice.
On avait l'impression qu'ils... Voilà. Autrefois, on donnait plutôt un nom. On avait quand même des trouvas, trouvins, trouvés qui désignaient un enfant trouvé. Mais on donnait plutôt des noms neutres, des noms de famille neutres aux enfants trouvés. Et à partir des années 1830, ça change et on a l'impression qu'ils regardent ce qu'ils ont autour d'eux et qu'ils vont donner un nom d'objet, même le plus abracadabrant, pourquoi pas serpillière pendant qu'on y est. Et puis, vous avez des employés d'état civil, dans, par exemple en Charente ou en, dans le Finistère, qui prenaient un mot au hasard dans le dictionnaire, ou alors les trois premières syllabes de trois ouvertures du dictionnaire au hasard, et ils formaient des noms complètement abracadabrants.
D'accord.
Donc qui là n'ont pas de sens. Autre que la mauvaise humeur ou les hasards du choix de l'officier d'état civil.
Très bien. Bon, bah, comme quoi. Alors, on a des noms à particules également. Alors, Guillemette, c'est super. Guillemette Boucher de la rue Pellimbert de Balor. Non, ce n'est pas une blague, c'est juste mon nom de jeune fille. J'ai épousé un monsieur Laurent, c'est beaucoup plus simple, qui a absolument tenu à ce que j'ai ainsi que nos deux filles les deux noms. Il n'y a jamais assez de cases dans les papiers à remplir, comme Zézette dans le Père Noël, sans parler de mon prénom à 11 lettres sorti du Moyen-Âge. C'est fou, ça, ces noms à rallonge. Comment on peut expliquer qu'il en existe autant? C'est quoi, c'est des histoires de mariage?
Autrefois, non, c'était plutôt pour les noms nobles, on rajoutait les noms des terres.
D'accord.
Donc, vous avez, voilà, pour distinguer une branche d'une autre, à un moment donné, on rajoutait des noms de domaines. Et puis, vous aviez plusieurs domaines comme ça, les uns à la suite des autres. On a 48 noms en France qui ont plus de 44 lettres.
D'accord. Et ça va jusqu'à combien?
Alors, là, on manque de cases. L'INSEE n'a pas mis suffisamment de cases pour qu'on sache quel est le nom qui détient le record. En Belgique, c'est 51 lettres pour le record et 12 mots. C'est différent.
Énorme. Caroline Darche-Prasliska, un nom à particules. À la Révolution française, nous avions le choix entre enlever la particule ou nous faire enlever la tête. Nous avons maintenant un nom beaucoup plus court. Est-ce qu'effectivement, les noms, à travers les époques, racontent finalement l'histoire qui s'est déroulée?
Un peu, mais sous la Révolution, beaucoup, effectivement, de noms à particules ont enlever leurs particules pour ne pas avoir l'air noble, mais très souvent ça a été repris après la Révolution.
D'accord.
Donc ça a disparu et c'est revenu.
Ok, très bien. Vanesse Torché, mon nom c'est Torché dit Renard, avec les traits d'union SVP très important. C'est fou la tâche qu'on peut avoir, l'attachement qu'on peut avoir, oui, à la façon dont on écrit notre nom de famille. Je l'adore, beaucoup de personnes me demandent d'où cela vient. Ma grand-mère m'a raconté que c'était un enfant né d'une liaison entre une bonne et un noble. Cet enfant a été reconnu par ce noble, chose qui ne se faisait pas normalement, et l'enfant a pris les deux noms de famille. Je trouve cette histoire magnifique. Torché dit Renard. Effectivement, on a l'impression d'être plongé.
C'est très beau, mais il faut faire une recherche généalogique pour vérifier si la légende familiale est vraie ou pas, parce qu'il existe, notamment dans le sud-ouest, beaucoup de noms de famille qui sont quelque chose dit quelque chose.
Okay.
Dans toutes les régions montagneuses, on a ce qu'on appelle des binoms. On ne circulait pas autrefois d'une vallée à une autre très facilement, notamment en hiver, et donc on avait des villages où tout le monde finissait par porter un peu le même nom. Donc on rajoutait des noms, soit des noms doubles, un nom de branche déjà, ou un nom d'épouse, soit quelque chose dit quelque chose pour distinguer les différentes branches. Donc on a des binoms dans les Alpes et dans les Pyrénées.
Voilà, ce qui n'empêche pas de toute façon de toujours croire à ces histoires et à ces légendes.
Elle peut tout à fait être vraie, l'un n'empêche pas l'autre.
Voilà, et puis de toute façon c'est toujours joli à raconter. Mon arrière-grand-mère s'appelait Marie Salope, c'est véridique, nous écrit Norman. Pardon Norman, je suis en train de lire votre message en direct. Non mais ça arrive ça? Alors, le choix des prénoms avec les noms de famille, quand même. Ça, parfois, c'est très hasardeux. Hein.
Alors, on a beaucoup de... En Bretagne, on trouve beaucoup de salauds avec toutes les orthographes possibles. Mais c'était la forme bretonne de Salomon.
Oui, ça n'a rien à voir.
Donc, quand on ne parle que breton, salaud, ça ne veut rien dire. Bon, évidemment, en langue française, là, ça commence à devenir péjoratif. Vous avez beaucoup de noms comme ça qui, à un moment donné, ont pris une signification qui n'était quand même pas très heureuse.
Mais salope.
Bah. A priori, c'est vous avez des salauds avec le P.
Oui, alors là, il y avait deux P.
Oui, je pense encore que c'est une forme de Salomon.
Très bien, bah vous voyez comme quoi. On se retrouve tout de suite hein, sur RTL, on va faire une recherche justement sur ce sujet, Norman. Merci pour le tweet que vous nous avez envoyé. Pardon, je lis les messages en direct, donc évidemment, je les découvre en même temps que vous. Allez, à tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Jérôme Taillefer qui nous envoie un tweet. Taillefer est très répandu dans le Bordelais, le Périgord. Quelle est son origine? Vous pouvez nous le dire maintenant, Marie-Odile, ou ça nécessite une petite enquête?
Alors, je cherche. Oui, c'était un forgeron ou un artisan travaillant le fer, ou encore un soldat. Et ça a été par exemple le surnom qu'on a donné à le comte Guillaume d'Anjou, qui avait, lors d'une bataille, fendu intégralement et la cuirasse et la tête et le corps de son adversaire.
Trop fort.
Donc on l'avait appelé Taillefer. Il y en a 2700 en France. Alors je ne sais pas s'il descend de ce fameux Guillaume, mais c'est un prénom, un nom de famille costaud.
Alors, à propos de costaud, Adeline qui nous écrit « Mon nom est poignant, au-delà de sa signification émotive, c'est vrai que c'est assez joli, poignant. Est-ce que cela ne viendrait pas de la poigne plutôt ?»
Si, c'est la poigne, c'est un bagarreur au départ.
Ah, très bien, Adeline. Voilà, famille de bagarreurs, Adeline. On ne se cherche pas dans la famille d'Adeline. D'accord, donc effectivement, c'est, on est vraiment dans oui. quelque chose de
voilà,
beaucoup plus dur.
Voilà,
taillefer
et poignant, on est dans la bagarre là pour le moment.
Mon nom plutôt rare est Loutre, viendrait de chasseurs de loutres jadis. Des erreurs orthographiques au moment de retranscription dans les registres auraient transformé le loutre en loutre. Tous mes copains de classe m'appelaient donc Biloute avant le film. Et puis j'imagine en ce moment qu'avec Maloute. Voilà, alors oui. Donc Loutre, L-O-U-T-E, ça vient d'où?
Là, il faudrait faire une recherche généalogique pour vérifier si c'est bien loutre ou pas.
D'accord.
Je ne sais pas. Là,
bon,
c'est...
On va passer à Olivier Lefrêne.
C'est joli.
C'est joli. Hein, les prénoms et noms de famille qui sont
oui.
dans le même univers.
Deux arbres.
Voilà.
Deux arbres. L'Olivier d'une part, et puis Lefrêne, on a effectivement quantité de noms de famille qui indiquent un bois. Boule, c'est le boulot. Bouilly, c'était aussi une des hypothèses à côté du marécage. Ça pouvait être aussi un bois de boulot. On a des duchênes, duquesnes, etc. Les arbres à côté duquel étaient bâtis, à côté desquels se trouvait la maison de l'ancêtre initial, servait souvent à désigner la famille.
Voilà, donc on fait un petit clin d'œil à Élodie Boule, justement, qui nous a joint à propos de son nom de famille. Ah bah tiens, j'espère que Jacques est à notre écoute. Jacques Pradel, est-ce que Jacques a quelques infos à son sujet du nom de famille? Je ne suis pas persuadée. En revanche, Marie-Odile peut nous dire d'où vient Pradel.
Alors, aucun arbre, c'est une prairie.
Ah, d'accord.
Voilà,
okay.
Une grande prairie, un terrain plat. C'est un mot construit en langue occitane. Et donc, a priori, on ne perd personne de vue dans une prairie.
Non, et puis surtout pas Jacques.
Voilà.
Caroline, j'aimerais bien savoir qui a eu la bonne idée de donner comme nom de famille Samson. Ça fait sourd et ça fait surtout Samson chien. Évidemment, c'est toujours sujet à des surnoms quand on est gamin. Je suis peut-être de la même famille que Véronique. Ça vient d'où Samson? Il y aurait 4500 porteurs de ce nom de famille.
Oui, parce que c'était un prénom. C'est le prénom biblique. Le fameux guerrier qui avait la force dans ses cheveux et qu'on retrouve dans la Bible, c'était un prénom très fréquent. Donc Samson a donné aussi ensuite un nom de famille et c'était le nom de famille des bourreaux de Louis XIV. Et la famille de bourreaux Samson a duré, voilà, le métier s'est transmis de père en fils jusqu'au XXe siècle quand même.
Oui, donc voilà. Il faut regarder aussi dans votre arbre généalogique, surtout Caroline, vous qui nous écrivez.
Voilà, Véronique ou les bourreaux.
Elisabeth Jauger, je me croyais de Bourgogne et on me dit qu'un Y, donc à la fin d'un nom de famille, est signe d'une origine hispanique. Et pourtant, ils sont plutôt blonds dans la famille, donc elle a des doutes. C'est une réalité, ça? Est-ce que l'orthographe a des choses à nous dire sur l'origine de nos noms?
Oui, l'orthographe traduit effectivement souvent une origine géographique, mais là, pas hispanique. On a des noms de lieux extrêmement fréquents en France qui se terminent par EY, le Buget, Colombey les deux églises, etc. Et là, jauger, c'est soit l'évocation d'un nom de lieu, soit l'évocation d'un métier, celui de jaugeur. Jauger, par exemple, le contenu d'un tonneau, de récipient. On avait beaucoup de métiers de mesureur au Moyen-Âge ou de jaugeur. Donc, en voilà un. Et on avait des terminaisons pour écrire les suffixes, effectivement, qui variaient selon les régions. Donc, le son O, qui est très fréquent dans les noms de famille, Perrault, vous l'écrivez
Vincent.
En général EAU quand vous êtes en Vendée, vous l'écrivez AULT quand vous êtes en Touraine, vous l'écrivez OT quand vous êtes en Franche-Comté, vous l'écrivez OZ en Savoie. Donc il y a des habitudes d'orthographe régionale qui font que les fins des mots se modifiaient autrefois. L'orthographe ne s'est figée que dans les années 1880, c'est tout. C'est tout récent.
Vous parlez de Z. Nelly Loger avec le Z muet, il paraît que c'est d'origine espagnole justement.
Alors, en Espagne, on trouve beaucoup de EZ. Martinez, c'est le fils de Martin, ça veut dire fils de, le EZ. González, fils de Gonzalo, etc. Mais là, dans le nord de la France, c'est en fait un signe du pluriel en général. Le S et le Z étaient interchangeables. Donc, Logez, c'est celui qui habitait les loges, c'est-à-dire un village fait de cabanes en bois.
Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va faire un petit point, si vous le voulez bien. On va se retrouver dans un instant. Et puis, vous qui nous avez envoyé vos noms de famille, eh bien, Marie-Odile, qui est super rapide, va en trouver la signification dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Oh, c'est joli ça, on vient de recevoir un tweet de Valentin Lamoureux. Je remercie mes parents pour ce prénom et ce nom qui vont si bien ensemble par rapport à la Saint-Valentin. On n'a pas besoin d'être au 14 février hein, pour trouver ça joli. Merci Valentin de nous suivre. Puis Valentin est joli garçon en plus, donc ce qui ne gâche rien. Aline, bonjour, mon nom est Bachelet et mon conjoint se nomme Chevalier. Est-il vrai qu'un Bachelet était un jeune chevalier, Marie-Odile?
Bachelet, c'était un bachelier au départ, alors rien à voir avec le baccalauréat, c'était celui qui voulait devenir chevalier, oui. Donc un futur jeune seigneur. Il aspirait à devenir chevalier, il ne l'était pas encore.
D'accord, donc c'est super quand même que Aline Bachelet ait rencontré un chevalier.
Voilà, elle est devenue chevalier en quelque sorte.
Exactement. Clément, alors Clément Cochaud, C-O-C-H-A-U-D, ça signifie quoi?
Alors c'était un adjectif au Moyen-Âge qui voulait dire débauché.
Ah bah bravo Clément, bon. 20 sur 20. Hein.
C'était il y a 800 ans, l'ancêtre pouvait l'être, mais le descendant peut être très sage.
Voilà Clément, surtout laissez-nous un petit message pour nous dire si ce nom et la signification de ce nom vous vont bien. En tout cas, merci pour votre appel. On a également Christelle. Mon nom de famille est Louis Saint-Charles. D'où vient le préfixe Saint dans un nom de famille?
C'est en général un nom de lieu. C'est même quasiment toujours un nom de lieu. Vous avez beaucoup de noms de lieux, de hameaux en France ou de paroisses tout simplement qui s'appellent Saint quelque chose et ont désigné les familles qui y vivaient par le nom du lieu.
Très bien, rien à voir avec Cochot non. Et débauché. Choco Tatou qui nous envoie Tatesso. Le prénom Tatesso, c'est très peu répandu. Il y a beaucoup de tates. Tate grain, tate
vin. Oui, on a des tates quelque chose un peu partout.
Ça vient
France.
Vraiment du geste tater?
Là, pour tate grain ou tate vin, puisque ça existe aussi. Sans doute dans le sens de goûter ou de tâter. Tatesso, c'est plus incertain, ils ne sont qu'une trentaine. C'est un surnom. L'interpréter est toujours un petit peu délicat quand le surnom est aussi rare.
On va accueillir Marianne sur cette antenne. Bonjour Marianne, bienvenue sur RTL.
Oui, bonjour à vous et à tous les auditeurs.
Alors Marianne, votre nom de famille c'est ?
Dintillac.
Très bien, qui s'écrit D-I-N-T-I-L-H-A-C.
Oui.
Très bien. Et vous vouliez savoir donc tous ces noms qui se terminent en Ilac?
Oui, parce qu'il y a Ravaillac, il y a Mouillac, il y a tout un tas de noms comme ça.
Il y a Merniac.
Alors, Marie-Odile Merniac, justement.
Oui, tous les noms qui se terminent en Ac sont des noms de lieux d'origine. Ça indique le lieu où vivait la famille il y a 800 ans. Donc, avec le D, il faut imaginer que c'est D'Intillac.
Donc de Intillac.
Voilà.
Alors on a fait une recherche pour vous. Justement, Marianne, vous vivez en Seine-et-Marne, mais il y a un hameau à Saint-Paul-des-Landes, c'est dans le Cantal justement, qui est en lien avec votre nom de famille. Je ne sais pas si vous avez eu des ancêtres dans le Cantal.
Non, dans le Tarn.
Dans le Tarn.
Et de Saint-Antonin, il y avait même l'ancien procureur de la République de Paris, Jean-Pierre d'Intillac, qui n'est plus d'ailleurs. Qui était du côté de Saint-Antonin, Nobleval, l'Aveyron, le Tarn, dans tout ce coin-là.
Alors le nom est porté par 200 personnes, donc déjà il a pu bouger et on le retrouve bien dans le sud-ouest. Et puis il y a parfois des hameaux, il faudrait chercher sur des cartes anciennes s'il n'y a pas aussi des hameaux Intillac quelque part et notamment dans le Tarn. Oui.
Eh bien Marianne, on vous embrasse. Merci pour votre appel. À bientôt sur RTL. Au revoir Marianne.
Au revoir.
Jean est avec nous. Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous en êtes un bon?
Eh bien, écoutez, je n'aurais pas cette prétention.
Vous vous appelez Jean Compagnon?
C'est ça, oui.
D'où ça vient Jean Compagnon? Enfin, Jean, on le sait, mais Compagnon.
Eh bien, oui.
Vous le savez, vous, Jean, ou pas?
Non, pas du tout. C'est pourquoi je vous interroge, mais bon, ça doit être, je suppose, un nom de métier, enfin, se rapportant à un métier, je suppose.
Alors, oui, Compagnon, c'était le camarade de travail, celui avec lequel on partageait le pain.
Ah bon?
Qu'on c'était avec en latin, et pagnon, c'était le pain. Voilà, celui avec lequel on rompait le pain, on partageait le pain et avec lequel on travaillait. Vous êtes 3700 à porter ce nom en France.
Oui, c'est assez peu répandu d'ailleurs. Oui.
3700, c'est déjà un beau score.
Ah, c'est un beau score.
Oui, oui, tout à fait.
J'ai pas eu l'occasion dans ma vie, déjà longue, d'en rencontrer beaucoup.
Le département où l'on en trouve le plus, c'est en Saône-et-Loire. Alors, je ne sais pas où vous habitez.
Dans les Hauts-de-Seine.
L'origine de ma famille, c'est le département de l'Allier.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jean, de nous avoir appelés. Et je vous embrasse. Salut, Jean. À bientôt.
Au revoir.
Bonjour, Nicole.
Bonjour, Fabie.
Alors, vous, quel est votre nom ?
Alors, c'est le nom de ma maman, Paillasseur. Ça s'écrit P-A-I-2-L-A-S-E-U-R. Et nous avons fait des recherches, ça vient de la région lyonnaise, Quincieux-les-Chères. Mais on n'a trouvé que des gens de la famille. On n'a jamais entendu quelqu'un d'autre que notre famille s'appeler Paillasseur.
Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Oui, une soixantaine, c'est tout. Donc,
et c'est la famille, parce qu'on a fait des recherches jusqu'à la Révolution.
Ah
et
oui,
en fin de compte, on a retrouvé les cousins, la famille.
En fait, c'est une seule et même famille.
Oui, oui, oui. Quand le nom est aussi rare, c'est souvent le cas, effectivement. Alors, Paillassard en occitan, ça désignait un métier, c'était celui qui faisait des toits en paille.
Vous avez
c'est comme l'histoire des trois petits cochons, vous voyez.
Voilà, c'est ça. En Gascogne, ça a donné des paillassas avec deux S-A à la fin. Donc après, en fonction du lieu, vous avez des terminaisons qui se sont différenciées. Et donc paillasseur, là, visiblement, vous êtes tous parents.
Bon, voilà. Bah, vous avez une grande famille. Quoique, 60 personnes qui portent votre nom en France, Nicole. Donc, merci.
Oui, mon grand-père avait son frère qui avait 10 enfants.
Ah oui, bah oui, en plus, c'était des générations.
Mon grand-père en avait 5. Donc, déjà, c'est la génération d'avant. Oui. On se connaît tous parce qu'on a fait des fêtes de famille.
Bah oui, ah oui, ça, les j'imagine, grandes parce cousinades. Que c'est super. Voilà, oui. Les fameuses cousinades des paillasseurs.
Voilà, à peu près, on pense être une centaine à peu près de paillasseurs.
Eh bien, écoutez, on embrasse tous les paillasseurs qui nous écoutent, Nicole, et je vous remercie en tout cas
de
nous avoir éclairés. À bientôt, salut Nicole.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Ça va, Marie-Odile Merniac, vous tenez le choc là, parce qu'on est très très nombreux quand même.
Ça va.
Nous tourner vers vous aujourd'hui sur RTL. Alors, on a Sophie qui nous a envoyé un tweet. Mon nom de jeune fille est Poilot, je ne sais pas d'ailleurs, qui semblerait vouloir dire petit poil en bourguignon. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est amusant. Ça vous dit quelque chose, ça ?
Oui, c'est possible. On retrouve souvent cette idée de poil ou de poilu dans les noms de famille. Piéplu, par exemple, comme l'acteur, ça signifie...
Comme Claude.
Ça signifie pied poilu.
D'accord, okay. Ça nous fait voir les choses différemment. Amélie qu'on embrasse parce que son nom de famille est Bayard. Merci au chevalier, merci en tout cas Amélie de nous suivre. Effectivement, c'est l'adresse d'RTL au 22 rue Bayard. Rémi, je m'appelle Cache et je souhaiterais avoir la signification. Cache.
Cacheux en flamand, c'était le chasseur. Et si on regarde où se trouvent, où vivent les caches actuellement en France, on les retrouve effectivement dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc un ancêtre chasseur sans aucun doute.
Et Morin, nous demande-t-on, Morin, M-O-R-I-N.
C'est un homme brun comme un maure, voilà, au départ.
D'accord.
Donc, brun de cheveux, et puis...
Pourtant, ça s'écrit M-O-R-I-N.
Oui, mais on trouve toutes les orthographes. Moreau a le même sens, Morel a le même sens. On qualifiait beaucoup les gens en fonction de la couleur des cheveux. Donc, on a des Morel, des Moreau, des Lebrun, des Leblond, etc., des Rousseau. C'était très fréquent, et ils sont 45 000, les Morins.
Jean-Roland, moi j'ai un prénom et un nom que j'assume entièrement, Jean-Roland, l'ami au Rousseau. Mais j'ai très peu d'informations sur ce nom, justement.
Rousseau, c'est la couleur des cheveux, là, encore
Alors,
une fois.
Alors, l'ami au Rousseau, c'est l'ami du roux ?
Alors, au Rousseau, c'est en général un nom de famille Berrichon, parce que ça signifiait fils de, c'est la seule région de France où on garde ce préfixe qui indique une filiation. On trouve des au Rousseau, on trouve des... À Georges, on trouve des à la bergère, donc une façon de dire c'est le fils à Georges, le fils au brun, ou le fils à la bergère. C'est un nom de famille qui existe vraiment. Et l'ami, lui, ça désignait un ami ou un amant.
Ah, très bien, ça c'est joli aussi. Mon nom est Najotte. J'adore votre émission, nous écrit Yanis. Nous aussi, on adore que vous nous écoutiez, Yanis. Nageotte, ça vous dit quelque chose?
Je nage.
Très bien, elle nage complètement. Vous nous en voudrez pas, Yanis. On va essayer de faire une petite enquête après l'émission et puis on reviendra vers vous. Laurent Racine, je suis très fière de mon nom, toujours remarqué lorsque je me présente. Racine.
C'est celui qui était agriculteur et qui produisait des racines, c'est-à-dire des raves. Voilà,
des radis,
voilà, tout ce qui pousse sous la terre.
Très bien. Sandra Niquet, mon nom en a fait rire beaucoup. Est-ce un lien avec la sexualité ou avec la déesse de la victoire, ou ni l'un ni l'autre?
C'est un diminutif de Nicolas.
Ah ben voilà, ben finalement, tout va très bien. Voilà, parfois on a peur de certains noms, mais ils n'ont rien de si inquiétant que ça. D'ailleurs, on embrasse Clément Cochot qui est revenu vers nous et qui nous a renvoyé un petit tweet. Sego, qui porte le nom de Saint-Aimé. Sego est antillaise.
Alors Saint-Aimé, c'est a priori un nom de lieu, hein, comme tous les mots,
tous les
saints quelque chose, ça évoque un lieu d'origine.
Rodolphe, bonjour mesdames, pouvez-vous m'éclaircir sur mon nom Schmitt?
Ah, Schmitt, c'est le forgeron en alsacien, l'équivalent de Le Goff qui est le forgeron en breton, l'équivalent de Maréchal qui est le forgeron dans le centre de la France, ou de Lefebvre qui est le forgeron dans le nord, ou de Fabre, Ferrari, Fort, etc. qui sont les forgerons du sud. Il y a des forgerons dans tous les villages et on a 600 mots différents pour le désigner dans les noms de famille.
D'accord. Moi c'est Fatra, nous écrit Anne-Marie, et selon la définition du Larousse, un amas confus de choses incohérentes. J'adore mon nom, peu courant, qui vient de la Normandie, et récemment j'ai découvert qu'en patois vendéen de la Chaume, un Fatra sans S est le moussaillon d'un bateau de pêche. Alors, est-ce que les Vendéens pêcheurs sont remontés sur les côtes normandes au-dessus du Havre? Qui sait? C'est intéressant ce qu'elle nous explique, Anne-Marie Fatra, c'est qu'effectivement, les noms voyagent.
Oui, alors voyager beaucoup moins autrefois qu'aujourd'hui, mais les noms bougent et c'est pour ça qu'il faut absolument déterminer dans quelle langue le nom a été créé au départ. Hein, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est le nom Sans Devoir, qui est un nom du Pas-de-Calais. On se dit tout de suite qu'est-ce que les ancêtres ont bien pu faire pour porter ce nom-là. Et en fait, c'est un nom flamand qui s'orthographiait Svingdevord, et qui veut dire le guet du cochon. C'est un nom de lieu. Ça n'a rien à voir. Et il passe en France, enfin, dans une région où on parlait le normand, picard, le ch'ti. Donc, les racines, l'orthographe flamande est effacée et on se retrouve avec Sans Devoir qui était la sonorité la plus proche. Donc, c'est écrit
d'accord.
N'importe comment.
Alors qu'en fait, à la base, c'était donc le guet du
voilà.
Cochon. Annick Bourris, c'est un nom breton et j'en suis fière. On sent effectivement à la prononciation des noms de famille, à l'orthographe d'office, que certains noms sont principalement d'une région et pas d'une autre.
Pas forcément, par exemple, pour évoquer la Bretagne, vous avez Isigo, qui est un nom breton. Spontanément, on a tendance à se dire il est espagnol ou il est italien. Mmh. Et ça veut dire avare en breton. Mmh. Donc,
Est-ce qu'il y a quand même des régions de France où les noms sont plus marqués? Par exemple, on est sur la Bretagne, tout ce qui est Eck.
Oui, Eck, Ick.
Oui.
Ick, mais on en trouve aussi beaucoup en Serbie. Donc, on peut avoir, ça peut tromper également. Tous les noms qui commencent par U et par E, ce sont des initiales très rares en langue française, sauf dans le Pays basque.
D'accord.
Où vous avez des Urrutia, des Etcheverry, Etcheberry, Etchegaray, etc.
Etc. On se retrouve tout de suite si vous le voulez bien.
<c'est ça. rire>
Hervé Carrère qui nous a envoyé un tweet. Bonjour, je connais une famille 22 du côté de la Savoie. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, et puis il y a de belles histoires quand même. Un tweet de Sylvain. J'ai un collègue qui s'appelle Quen et elle s'appelle Cochon. Ils se sont bien trouvés. Comme quoi, vous voyez, il y a des correspondances. Marie-Odile Merniac, je vous remercie au nom de toute l'équipe et de celle des auditeurs parce que je sais que votre tâche n'était pas si aisée que ça aujourd'hui. Merci pour toutes vos recherches
Merci
en direct sur RTL. Et donc, je rappelle l'Atlas des noms de famille chez Archives et Culture. Si vous voulez en savoir plus, voici l'album que vous pouvez voir sur RTL.fr et on mettra les liens sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt, Marie-Odile Merniac. Vous êtes prête à revenir pour nous en faire une petite...
À volontiers.
Un petit numéro bis
volontiers.
D'accord, ce sera avec plaisir en tout cas. Merci à
Merci.
Vous. Et nous, demain, on se retrouve donc sur RTL. Nous nous intéresserons à la chirurgie esthétique qui va de plus en plus loin. On connaît les opérations des seins, des fesses, mais on découvre aussi une nouvelle tendance qui va toucher toutes les zones du corps, même les plus intimes. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui tout modifier sur notre corps par la chirurgie esthétique? Un chirurgien sera là justement pour répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser au 3210 sur Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux à aller sur RTL.fr ou notre page Facebook. À demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les Grosses Têtes et moi je vous embrasse. À demain.
Vous écoutez RTL.